Sixième époque, 26 mars 1796, dans une maison de retraite ecclésiastique à Grenoble, pendant le délire de la fièvre. J'ai quitté pour jamais cet Éden de ma vie, où cette Ève à mon cœur fut montrée ravie, comme le premier homme, hélas, quitta le sien. Mais combien son exil ferait envie au mien? Des pas suivaient ses pas loin des portes fermées, ses sanglots s'étouffaient sur des lèvres aimées, et de deux cœurs brisés l'âpre conformité faisait de deux malheurs une félicité. Moi, seul toute la vie et seul au jour suprême, abhorré du seul cœur que je tue et que j'aime, obligé d'étouffer mes plaintes sans écho et de noyer mon cœur dans ses propres sanglots, obligé d'arracher à l'âme sa pensée comme on arrache une arme aux mains d'un insensé, ayant tout mon bonheur à mes pieds répandu, sans pouvoir y jeter un regard défendu, le cœur vide et saignant jusqu'à ce qu'il en meure, et n'osant même à Dieu nommer ce que je pleure, il faut vivre et marcher sans ombre, toujours seul, mort parmi les vivants, cet habit pour linceul. Mort, oh, plutôt jeté, tout bouillonnant de vie, parmi ces morts dont l'âme est déjà refroidie, étouffant sans pouvoir mourir et nourrissant le ver de mon tombeau, du plus chaud de mon sang. Oh, que t'avais-je fait, éternelle justice, pour mériter si jeune un si rare supplice? Cet amour, comme un piège à mon cœur préparé, sans toi, sans tes desseins, l'aurais-je rencontré? N'en avais-je pas fui, tout brûlant et tout jeune, le péril inconnu dans la veille et les jeûnes? Pour sauver mon cœur chaste et garder mon œil pur, entre le monde et moi, mis l'épaisseur d'un mur. Est-ce moi qui l'ai fait s'écrouler sur ma tête? Et quand pour m'abriter au nid de la tempête, j'allais m'ensevelir dans le creux du rocher, Seigneur, est-ce elle ou vous que j'y venais chercher? Est-ce moi qui, prenant cet enfant inconnu, la portais et l'enfermais avec moi dans la nuit, et par mon ignorance et son déguisement me créais le péril d'un double sentiment? Est-ce moi qui, couvant de nos deux cœurs la flamme, nous fit pendant 2 ans vivre d'une seule âme, pour qu'en nous séparant tout à coup sans pitié, chacun des deux de l'autre emporta la moitié? Si c'est Dieu qui l'a fait, pourquoi moi qui l'expie? L'innocent à ses yeux paye-t-il pour l'impie? Ou plutôt est-il donc dans ses sacrés desseins que ce qu'il a choisi ici-bas pour ses saints, avant de brûler l'homme à ses bûchers sublimes, les premiers sur l'autel lui servent de victime? Oh, je me soumettrai sans murmure à ta loi, Dieu jaloux, si du fer tu n'égorgeais que moi. J'ai voulu, j'ai tenté ton cruel ministère, je saurais jusqu'au sang le subir et me taire. Mais elle, mais cet ange à peine descendu, pauvre ange pris au piège à l'homme seul tendu, tendre enfant par toi-même à mon sein confié, que par son amour même au Dieu sacrifié, proscrite de ses bras ouverts pour la porter, elle aille en retombant à mes pieds se heurter, traînée dans les langueurs d'un éternel veuvage, du front qu'elle adora l'ineffaçable image, ou portée, jeune et morte, au bras d'un autre époux, d'un cœur désenchanté et les précoces dégoûts, m'accusera jamais du froid qui la dévore, et blasphémer son Dieu par le nom qu'elle adore. Oh, c'est plus qu'un mortel ne pouvait accepter, ce qu'au prix du ciel même il fallait racheter. Ce que j'achèterai de ma vie éternelle, de l'immortalité, que je maudis sans elle. Ô Laurence, ô pitié, reviens, pardonne-moi. Je t'immolais à Dieu, mon seul Dieu, c'était toi. Je ne puisais qu'en toi cette force suprême qui m'élevait de terre au-dessus de toi-même. qui me faisait trouver pour mieux te protéger, tout sacrifice faible et tout fardeau léger. Je me croyais un dieu. Non, je n'étais qu'un homme. Je maudis mon triomphe avant qu'il se consomme. Je me repens 100 fois de ma fausse vertu. Oh, s'il est temps encore, Laurence, m'entends-tu? Je me jette à tes pieds. Je t'ouvre pour la vie, ses bras où sur mon sein tu retomberas vie. Oui, ses bras dans l'étreinte, ô ma fille, ô ma sœur, pendant ce refermant te sceller sur mon cœur. Oh, tu m'entends, ô viens, vivante ou morte, dans notre ciel à nous, viens que je te remporte. Renversons le rocher, courons, n'écoutons pas ce qui gronde là-haut, ce qui maudit en bas. N'entendons pas ces voix mentant à la nature. L'oracle est dans le cœur de chaque créature. L'irrésistible voix qui convie au bonheur. C'est mieux que la vertu, l'innocence et l'honneur. C'est le cri du ciel, même entendu sur la terre. Aimons-nous, ô ma vie, allons, dans le mystère, cacher à l'œil humain d'ineffables amours, qui n'auront d'autre fin que celle de nos jours. De notre double vie épuisons les délices. Quand la mort dans nos dents vient briser les calices, qui sait quel est le sage ou quel est l'insensé, de celui qui l'a bu tel que Dieu l'a versé, ou qui le refusant à sa soif assouvie, au songe de la mort, sacrifia sa vie. Mais ce doute exista-t-il, je voudrais l'encourir. Une vie avec toi, puis à jamais mourir. Une vie avec toi, puis l'enfer et ses flammes. Une vie avec toi, puis la mort à nos âmes. Car cette horrible vie est un enfer sans toi. Le néant éternel y commence pour moi. Oui, sans défait, je fuis, je t'arrache à ce monde. Je te rapporte au ciel. On entend la cloche de la chapelle qui sonne l'office du soir et appelle les jeunes prêtres au stall. Erreur sacré qui gronde, cri d'en haut qui m'appelle aux marches de ma croix. Oh, mon cœur égaré se retrouve à ta voix. Comme des ailes d'ange en mon ciel balancé, tu chasses de mon front mes honteuses pensées. Tu refoules le crime avec le désespoir dans ce sein qui renaît aux accents du devoir. De mes propres sanglots, il semble que tu pleures, sympathique instrument de ces saintes demeures. Que de poids d'un cœur lourd n'as-tu pas soulevé? Combien d'âmes en peine à tes glas ont rêvé? Combien de bons élans d'ardeur sanctifiés les anges à tes sons n'ont-ils pas confiés? Que de pesants soupirs de l'ombre du Saint-Lieu n'ont-ils pas remonté sur tes ailes à Dieu? Et combien n'as-tu pas des saintes agonies sonnées pour la vertu et les angoisses finies? Tu chantes aux mortels l'aube et le soir des jours. Tu sais combien du temps les longs moments sont courts. Combien ce que la vie emporte sur son aile est sans comparaison avec l'heure éternelle. Encore un peu d'exil, encore un peu de fiel. Ô mon âme et tes jours sonneront dans le ciel. Marchons en attendant, marchons tête baissée, comme un homme écrasé du poids de sa pensée. Ô Dieu consolateur, allons la confier. Ah, lorsque l'un pour l'autre on peut encore prier au vaste sein de Dieu dont l'amour nous rassemble. Se rencontrer en lui, n'est-ce pas être ensemble? De sa cellule à Grenoble, 14 mai 1797. Pour retremper mon âme au feu des saints parvis, chez ces hommes de Dieu depuis 2 ans je vis. Mais l'aspect de leur paix, de leur béatitude, ne peut de mon esprit dompter l'inquiétude. Que le fardeau des jours semble léger pour eux. Comme à tous leurs devoirs portant un front heureux, on sent que sans effort leur cœur vierge se sèvre. Le sourire du juste est toujours sur leurs lèvres. Jamais rien de leur sein ne soulève un soupir. Ah, si comme eux, mon cœur, tu pouvais t'assoupir, si l'apparition du passé qui se lève pouvait de mon regard s'effacer même en rêve, si l'ombre de ces murs pouvait me la cacher, mais sur mes pas toujours elle semble marcher, mais sous chaque lambris, mais sous chaque colonne, je la vois qui descend, qui monte et qui rayonne. Et si pour échapper au fantôme adoré, je veux fermer les yeux, dans l'âme il est entré. Ô sommet de montagne, air pur, flot de lumière, vent sonore des bois, vague de la bruyère, onde calme des lacs, flot poudreux des torrents, où l'extase égarait mes yeux, mes sens errants, où d'un bras convulsif, au lieu de ces froids marbres, j'embrassais en pleurant les racines des arbres, et me collant au sol comme pour écouter, je croyais sur mon cœur sentir Dieu palpiter. Des airs retentissants des bruits de la nature, que mon âme, à l'étroit dans cette enceinte obscure, pleurant son magnifique et premier horizon, brise d'ardents soupirs les murs de sa prison. Il me semble, ô mon Dieu, que ce toit qui m'écrase rend plus lourde la vie et comprime l'extase, que je respirerai plus librement ailleurs, que le vent sécherait l'âcreté de mes pleurs, et que l'air m'aiderait, comme il aide les aigles, à m'élever à Dieu, mieux que ces froides règles. Ces hommes sont heureux, cependant, sous ces lois. Ils suivent sans détour leur route, oh, je le crois. Ils n'ont pas respiré l'air de feu des tempêtes. L'ombre de ces arceaux couvrit toujours leur tête. Ce Dieu seul, de sa loi, leur souvenir est plein. Ils n'ont point à couver un foyer dans leur sein, à tuer leurs pensées, à tromper, à sourire, en cachant dans leurs mains la spique qui la déchire. Leur jour n'a pas une ombre, leur cœur pas un pli. Mais moi, Seigneur, mais moi, mon Dieu, l'oubli, l'oubli. Même maison, 25 juillet 1797. Ah, je me doutais bien que la fausse apparence aurait jusqu'au tombeau terni notre innocence, qu'on ne croirait jamais qu'en un même séjour, deux cœurs dans le désert, couvant 2 ans l'amour, se fussent conservés purs, seuls, sans autre garde que l'œil toujours présent du Dieu qui les regarde. Ce soupçon est écrit pour moi sur tous les fronts. Leur sainte charité m'épargne les affronts. Mais malgré la douceur que leurs paroles affectent, on voit qu'à leur vertu ma présence est suspecte, qu'on me craint, qu'on m'évite, et que je suis pour eux un objet de dégoût, comme un pauvre lépreux. Partout où je parais, j'étends ma solitude, seul au pied des autels, au repas, à l'étude, dans les délassements du soir, plus seul encore. Dès que mon pas résonne au bout d'un corridor, la conversation cesse et tout front est sombre. On se range, on s'écarte, on fait place à mon ombre. Chacun devant mes yeux détourne un œil glacé, et le bruit ne reprend qu'après que j'ai passé. Et moi, baissant la tête et sans un cœur qui m'aime, je passe en m'effaçant, tout honteux de moi-même. Aucun regard ami pourtant m'eût fait du bien. Peut-être aussi mon cœur a-t-il voilé le mien. Peut-être que la flamme en mon sein amorti a dévoré d'un jet toute ma sympathie, et que mon œil de marbre, incapable d'aimer, éteint tout sentiment qui voudrait s'allumer. Grenoble, août 97. L'évêque enfin m'a dit: j'aimerais votre épreuve, mon fils, de serviteur ma pauvre église est veuve. La vieillesse, le glaive ou l'infidélité des pasteurs de mon peuple, hélas, sont limités, le nombre insuffisant déjà pour ces misères. L'herbe croît sur le seuil de tous mes presbytères. Chaque jour de l'année, une paroisse en deuil, où l'enfance est sans père et la mort sans cercueil, vient me redemander l'homme de l'évangile. Je pourrais vous donner à choisir entre mille. Mais vous n'ignorez pas, mon enfant, que sur nous, le monde avec raison veille d'un œil jaloux, qu'il veut, pour toucher Dieu, les mains chastes des anges. Il a couru sur vous, mon fils, des bruits étranges, je veux les ignorer. Votre fidélité, si vous fûtes un jour faible à tout racheter, le repentir, semblable au charbon d'Isaïe, en consumant le cœur, renouvelle la vie. Mais l'ombre du passé ne doit jamais ternir le ministre du ciel. Nul mortel souvenir dans le prêtre de Dieu ne doit rappeler l'homme. Du seul nom de pasteur, il convient qu'on le nomme. Que ce nom d'ici-bas dans l'autre soit perdu. Qu'il paraisse du ciel à l'autel descendu. Et que l'éloignement, le mystère et la grâce de ses pas dans la vie aient effacé la trace. Il est au dernier plan des Alpes habitées, un village à nos pas accessible en été, et dont pendant 8 mois la neige amoncelée ferme tous les sentiers au fils de la vallée. Là, dans quelques chalets sur des pentes épars, quelques rares tribus de pauvres montagnards, dans des champs rétrécis qu'ils disputent à l'aigle, parmi les châtaigniers sèment l'orge et le seigle, dont le pâle soleil de l'arrière-saison laisse à peine le temps d'achever la moisson. Le dieu de l'indigent vous donne ce royaume. Son autel est de bois et n'a qu'un toit de chaume. Mais mieux que sur l'autel de luxe éblouissant, aux mains jointes du peuple et du prêtre, il descend. Il se souvient encore que son humble lumière, avant l'orgueil du temple, éclaira la chaumière. Et ces âmes des champs, toutes au même prix, il vous les comptera là-haut. Allez, mon fils. J'irai. J'attacherai mon âme aux solitudes. J'écorcherai mes pieds dans des sentiers plus rudes. Bénissez-moi, Seigneur, que mon cœur, consumé par l'amour et puni pour vous avoir trop aimé, au foyer de l'autel s'éteigne et se rallume. Et d'un feu plus céleste en mon sein se consume. Mais pour aimer en vous, avec vous et pour vous, tous au lieu d'un seul être, et cet être dans tous. Lettre à sa sœur. 7 mois plus tard, du village de Valneige, mai 1798. Ma sœur, oh, quel doux temps ce doux nom me rappelle! Tant le couple buvant à la même mamelle que notre jeune mère, en se penchant sur nous, asseyait et berçait sur les mêmes genoux. Ma sœur, oh, laisse-moi l'effacer pour l'écrire, ce nom que mon regard n'est jamais las de lire, ce nom que j'écrirais du soir au lendemain si je laissais mon cœur s'écouler sous ma main. Oh, ce nom si longtemps muet à mon oreille, combien de choses éteintes en mon âme il réveille. Toute cette moitié froide et morte du cœur retrouve à ce doux nom son monde intérieur, monde de sentiments, d'amour et d'innocence, où, comme en un berceau, Dieu couve notre enfance, dont le regret cuisant nous poursuit, où, plus tard, l'œil se voile de pleurs en tournant un regard. Ma mère, est-il bien vrai? Dieu nous rend notre mère. Les vents sous sa voile aplonit l'onde amère. Toi, ton mari, vous tous rendus par les flots, plus 3 petits enfants pendant l'exil éclos, comme ces passereaux que dans notre jeune âge nous trouvâmes un jour sur l'arbre après l'orage, que du rameau cassé notre main recueillit et quand ton tablier tu rapportas du nid. Mais tu ne m'as pas assez dit sur eux, sur elle, oh, sur elle surtout. Ma mémoire fidèle la voit bien à travers le lointain souvenir, tel qu'à mon départ je la vis me bénir, telle qu'une acceptée, aucune créature ne me laissa dans l'œil plus céleste figure. Mais dis-moi, rien n'a-t-il changé sur ces beaux traits? Le temps, le long exil, ses soucis, ses regrets, des vents plus froids ont-ils passé sur ce visage, sans laisser comme au ciel trace de leur passage? Son œil a-t-il toujours ce tendre et chaud rayon dont le front ressentait la tiède impression? Sur sa lèvre attendrie et pâle, a-t-elle encore ce sourire toujours mourant ou près d'éclore? Son front a-t-il gardé ce petit pli rêveur que nous baisions tous deux pour l'effacer, ma sœur, quand son âme, le soir au jardin recueillie, nous regardait jouer avec mélancolie? Les séparations et les longs désespoirs n'ont-ils pas éclairci, dis-moi, ses cheveux noirs, ou blanchi sur son front ces deux boucles de soie où sa tempe pensive et profonde se noie? Sa voix a-t-elle encore ce doux timbre d'argent, ses caresses de son sur des lèvres nageant? D'où notre nom tombait et résonnait si tendre que souvent ma pensée en rêve croit l'entendre. Et puis, te serre-t-elle encore contre son sein, ainsi qu'elle faisait quand il était trop plein? Du matin et du soir, sa pieuse caresse, ma sœur, te donne-t-elle aussi la même ivresse? Sens-tu, rien qu'à poser ton front sur ses genoux, ces extases du ciel qui descendaient sur nous? Mon amour t'interroge avec inquiétude, car les traits de sa main dont j'ai tant l'habitude, dans ce peu de mots d'elle à ta lettre ajoutée, tromperaient l'œil d'un fils. J'aurais presque douté si la main ne s'était révélée aux paroles. Tu te fais, diras-tu, des symptômes frivoles. Peut-être, mais à l'œil longtemps sevré d'un fils, hélas, tout est symptôme et peur, tout est sans prix. Il veut tout retrouver d'une tête si chère. Le moindre trait de plume, oh, c'est encore sa mère. S'il voit dans l'écriture un signe de langueur, il craint qu'un changement n'altère aussi le cœur, que ses traits affaissés, que son œil étudie, ne révèlent au fond tristesse ou maladie. Dis-moi, qui de sa main cette altération n'était que du bonheur, la tendre émotion? Et maintenant, il faut que ma plume décrive la demeure sauvage où Dieu que je vive. Vous devez, dites-vous, savoir où me trouver, quand d'un frère ou d'un fils votre cœur fait rêver, afin qu'en se cherchant, nos âmes réunies, entre les mêmes bords, vivent les mêmes vies. Ô mes anges absents, suivez-moi donc des yeux. Je vais vous raconter la maison et les lieux. Sur un des verts plateaux des Alpes de Savoie, oasis dont la roche a fermé toute voie, où l'homme n'aperçoit, sous ses yeux effrayés, qu'abîme sur sa tête et qu'abîme à ses pieds, la nature étendit quelques étroites pentes où le granit retient la terre entre ses fentes et ne permet qu'à peine à l'arbre d'y germer, à l'homme de gratter la terre et d'y semer. D'immenses châtaigniers aux branches étendues y cramponnent leurs pieds dans les roches fendues et pendent en dehors sur des gouffres obscurs comme la giroflée aux parois des vieux murs. On voit à 1000 pieds au-dessous de leurs branches la grande plaine bleue avec ses routes blanches, les moissons jaunes d'or, les bois comme un point noir et les lacs renvoyant le ciel comme un miroir. La toise de pelouse à leur ombre abritée par l'adorne des chevreaux et des ânes broutés épaissit sous leurs troncs ses duvets fins et courts dont mille filets d'ombre humecte le velours. Et pendant le printemps, qui n'est qu'un court sourire, enivre de ses fleurs le vent qui les respire. Des monts tout blancs de neige encadrent l'horizon, comme un mur de cristal de ma haute prison. Et quand leurs pics sereins sont sortis des tempêtes, laissent voir un pan bleu de ciel pur sur nos têtes. On entend d'autres bruits dans cet isolement, que quelques voix d'enfant ou quelques bêlements de génisse ou de chèvre au ravin descendu, dont le parfait teintait les cloches suspendues, les sons entrecoupés du nocturne angélus, que le père et l'enfant écoutent les fronts nus, et le sourd ronflement des cascades d'écume, auxquelles en oubliant l'oreille de sa coutume, et qui semble fondu dans ces bruits du désert, là-bas se sent repos d'un éternel concert. Les maisons, au hasard, sous les arbres perchés, en groupes de hameaux sont partout épanchés, semblent avoir poussé, sans plan et sans dessein, sur la terre avec l'arbre et le roc de son sein. Les pauvres habitants, dispersés dans l'espace, ne s'y disputent pas le soleil et la place, et chacun, sous son chêne, au plus près de son champ, à sa porte au matin et son mur au couchant. Des sentiers où des bœufs le lourd sabot s'aiguisent mènent de l'un à l'autre et de là vers l'église, dont depuis 200 ans, à tous ses pieds humains, le baptême et la mort ont frayé les chemins. Elle s'élève seule au bout du cimetière, avec ses murs épais et bas, verdis de lierre, et ses ronces grimpant en échelle, en feston, jusqu'au chaume moussu qui lui sert de fronton. On ne peut distinguer cette chaumière sainte qu'au plus grand abandon du petit champ d'enceinte, où le sol des tombeaux, par la mort cultivé, n'offre qu'un tertre ou deux tous les ans élevés, que recouvre bientôt la mauve et les orties, première fleur toujours de nos cendres sorties, et qu'à l'humble clocher qui surmonte les toits et s'ouvre aux quatre vents pour répandre sa voix. Ma demeure est auprès. Ma maison isolée par l'ombre de l'église est au midi voilée, et les troncs des noyers qui la couvrent du nord au regard des passants en dérobent l'abord. Des quartiers de granit que nul ciseau ne taille, tels que l'onde les roule, en forment la muraille. Ces blocs irréguliers, noircis par les hivers, de leur mousse natale y sont encore couverts. La joubarbe, la menthe et ces fleurs parasites que la pluie enracine aux parois décrépites y suspendent partout leurs panaches flottants et les font comme un pré reverdir au printemps. Trois fenêtres d'en haut par le toit recouvertes, deux au jour du matin, l'autre au couchant, ouvertes, se creusant dans le mur comme des nids pareils reçoivent les premiers et les derniers soleils. Le toit, qui sur les murs déborde d'une toise, a pour tuile des blocs et des pavés d'ardoise, que d'un rebord vivant le pigeon bleu granit, et sous ses blocs suivants l'hirondelle a son nid. Pour défendre ce toit des coups de la tempête, des quartiers de granit sont posés sur le faîte, et faisant tournoyer les tuiles et les bois, au vol de l'ouragan ils opposent leur poids. Bien que, si haute assise au sommet d'une chaîne, son horizon borné n'a ni grand ciel ni plaine. Adossée aux parois d'un étroit mamelon, elle n'a pour aspect qu'un oblique vallon, qui se creuse un moment comme un lac de verdure, pour donner aux vergers espace et nourriture, puis, reprenant sa pente et s'y rétrécissant, de ravin en ravin avec les monts descend. Les troncs noirs des noyers, un pan de roche grise, l'herbe de mon verger, les murs nus de l'église, le cimetière avec ses sillons et ses croix, et puis un peu de ciel, c'est tout ce que je vois. Mais combien, au regard du peintre et du poète, en vie, en mouvement, la nature rachète ce qu'elle a refusé d'espace à l'horizon. Une cascade tombe au pied de la maison, et le long d'une roche, en eau blanche et fine, y joue avec le vent dont un souffle l'incline. Y joue avec le jour dont le rayon changeant semble s'y dérouler dans ses réseaux d'argent, et par des rocs aigus dans sa chute brisée, aux feuilles du jardin se suspendant rosées. Légère, elle n'a pas ce bruit tonnant et sourd, qu'en se précipitant roule un torrent plus lourd. Elle n'a qu'une plainte intermittente et douce, selon qu'elle rencontre ou la pierre ou la mousse, que le vent faible ou fort la fouette à ses parois, lui prête ou lui retire ou lui rend plus de voix. Dans les sons inégaux que son onde module, chaque soupir de l'âme en note s'articule. Harpe toujours tendue, où le vent et les eaux rentrent dans leurs accords des chants toujours nouveaux, et qui semble la nuit, en ses notes étranges, l'air sonore des cieux froissés du ciel des anges. Maintenant, vous avez mon horizon dans l'œil. Demain, vous passerez, ma sœur, mon pauvre seuil. Suite de la lettre à sa sœur, Valneige, le 3 mai 1798. Une cour le précède, enclose d'une haie, que ferme sans serrure une porte de clef. Des poules, des pigeons, deux chèvres et mon chien, portier d'un seuil ouvert et qui n'y garde rien, qui jamais ne repousse et qui jamais n'aboie, mais qui flaire le pauvre et l'accueille avec joie. Des passereaux montant et descendant du toit, l'hirondelle rasant l'auge où le cygne boit, tous ces hôtes, amis du soleil qui les rassemble, famille de l'esprit, ils sont en paix ensemble. Les uns couchés à l'ombre en un coin du gazon, d'autres se réchauffant contre un mur au rayon. Ceux-ci léchant le sel le long de la muraille, et cela becquetant ailleurs l'herbe ou la paille. Trois ruches au midi sur leurs tuiles, et puis dans l'angle, sous un arbre au nord, un large puits, dont la chaîne rouillée a poli la margelle, et qu'une vie éteint de sa verte dentelle. Voilà tout le tableau. Cette marche d'escalier, sonore, chancelant, conduit au palier, qu'un avant-toit défend du vent et de la neige, et que de ses réseaux un vieux lierre protège. Là, suspendu le jour au clou de mon foyer, mes oiseaux familiers chantent pour m'égayer. Jusqu'ici, grâce au lieu, au ciel, à la nature, ton doux regard de sœur sourit à ma peinture. Ta tendre illusion dure encore, mais hélas, si tu veux la garder, ô ma sœur, n'entre pas. Mais non, pour vous deux cœurs, je n'ai point de mystère. Pourtant ai-je devant vous rougir de ma misère. Entrez, ne peignez pas ma niche pauvreté. Ces murs ne sentent pas leur froide nudité. Des travaux journaliers, voilà d'abord l'asile, où le feu du foyer s'allume, où Marthe file. Marthe, meuble vivant de la sainte maison, qui survit dans le temps son vieux maître en prison, pauvre fille à ses murs 30 ans enracinés, partageant leur prospère ou triste destinée, me servant sans salaire et pour l'honneur de Dieu, surveillant à la fois le culte et le saint lieu, et qui, voyant votre ombre, ô mon Dieu, dans son maître, croit s'approcher du ciel en vivant près du prêtre. Quelques vases de terre ou de bois ou d'étain, ou de marte attentive, on va briller la main. Sur la table, un pain noir, sous une lame blanche, dont chaque mendiant vient dîner d'une tranche. Des grappes de raisin que Marthe fait sécher, de leurs pampres encore verts décorent le plancher. La sève en hiver même y jaunit leurs grains d'ambre. De ce salon rustique on passe dans ma chambre. C'est celle dont le mur s'éclaire du couchant. Tu sais que pour le soir j'ai toujours du penchant, que mon âme un peu triste a besoin de lumière, que le jour dans mon cœur entre par ma paupière et que j'aimais tout jeune à boire avec les yeux ces dernières lueurs qui s'éteignent aux cieux. La chaise où je m'assieds, la natte où je me couche, La table où je t'écris, l'âtre où fume le souche, mon bréviaire vêtu de sa robe de peau, mes gros souliers ferrés, mon bâton, mon chapeau, mes livres pêle-mêle entassés sur leurs planches, et les fleurs dont l'autel se pare le dimanche, de cet espace étroit, sont tout l'ameublement. Tout, oh non, j'oubliais son divin ornement, qui surmonte tout seul mon humble cheminée, ce Christ, les bras ouverts et la tête inclinée, cette image de bois du maître que je sers, céleste ami, qui seul me peuple ces déserts, qui, lorsque mon regard le visite à toute heure, me dit ce que j'attends dans cette âpre demeure, et recevant souvent mes larmes sur ses pieds, fait resplendir sa paix dans mes yeux essuyés. Ce Christ, tu le connais, c'est celui que ma mère colla dans l'agonie aux lèvres de mon père. C'est celui que plus tard, moi-même, en un grand jour, au pur sang d'un martyr, je teignis à mon tour. D'autres lèvres encore, il conserve la trace. Et Dieu sait de combien de pitié je l'embrasse. Suite des lettres à sa sœur, Valneige, 4 mai 98. Tu me demanderas de quoi j'existe ici. Je me le demandais, moi, bien souvent aussi. Mais pour l'homme et l'oiseau, la providence est grande. De l'autel relevé, la volontaire offrande, ces âmes qui cherchant une voie pour prier, à défaut d'ange, hélas, nous glissent leurs deniers. Les époux qu'on bénit, les enfants qu'on baptise, ces dîmes du bonheur que l'on jette à l'église, quelques fonds que l'évêque adresse à ses curés, le jardin, le verger, quelques arpents de pré, et les chats teignent les noix, de petits coins de terre que je bêche moi-même auprès du presbytère, suffisent amplement pour moi, Marthe et le chien. À la table frugale, il ne nous manque rien. Le lait de mon troupeau, le vin blanc de mes treilles, les fruits de mes pommiers, le miel de mes abeilles, tout abonde. Le pain y cuit pour l'indigent. Et Marthe dans l'armoire a même un peu d'argent. Qui m'eût dit qu'un peu d'or me ferait tant de joie. Mais on n'en a pas besoin, prenez, je vous l'envoie. Suite des lettres à sa sœur. 5 mai 1798. Voulez-vous maintenant, ô mes anges, savoir comment je fais toucher le matin et le soir, et par quelle insensible et monotone chaîne le jour s'unit au jour et forme la semaine? Oh, chaque sœur le sait quand elle s'accomplit. La cloche avant le jour m'arrache de mon lit. Je crois entendre, au son de sa voix balancée, l'ange qui du sommeil appelle ma pensée et lui donne à porter son fardeau pour le jour. Je convoque à l'autel les maisons d'alentour, des vieillards, des enfants, quelques pieuses femmes, ceux qui sentent de Dieu plus de soif dans leur âme, d'un cercle rétréci m'entourent à genoux. Le Dieu des humbles fois descend du ciel sur nous. Combien la sainte aurore et ses voûtes divines étendent de soupirs s'échapper des poitrines et d'aspirations de terre s'élancer. Et combien il est doux, ma sœur, de penser que tous ces poids du cœur que cette heure soulève, sur ses propres soupirs au ciel on les élève. Qu'à chacun à leur place on rapporte un saint don, grâce, miséricorde, amour, paix ou pardon, que l'on ait l'encensoir où tout cet encens brûle, et la corbeille pleine où le pain qui circule, symbole familier du céleste aliment, va nourrir tout ce peuple avec un pur froment. Du maître, en peu de mots, j'explique la parole. Ce peuple du sillon aime la parabole. Poème évangélique où chaque vérité se fait image et chair pour sa simplicité. Lorsque j'ai célébré le pieux sacrifice, j'enseigne les enfants et me fais leur nourrice, et donne goutte à goutte à leurs lèvres le lait d'une instruction simple et tendre et qui leur plaît. Je rentre et, du matin la tâche terminée, à ma table, de fruits et de lait couronnés, je m'assieds un moment comme le voyageur qui s'arrête à moitié du jour et reprend cœur. Le reste du soleil, dans mes champs, je le passe, à ces travaux du corps dont l'esprit se délasse, à fendre avec la bêche un sol dur, à semer l'orge qu'un court été pressera de germer, à faucher mon prémur pour ma blonde génisse, à délier la gerbe afin qu'elle jaunisse, à faire à chaque plante à son heure pleuvoir en insensible ondée un pesant arrosoir. Car de l'homme à la fois cette terre réclame la sueur de son front et la sueur de l'âme. Le soir, quand chaque couple est rentré du travail, quand le berger rassemble et compte son bétail, mon bréviaire à la main, je vais de porte en porte, au hasard et sans but, comme le pied me porte, m'arrêtant plus ou moins un peu sur chaque seuil, à la femme, aux enfants, disant un mot d'accueil, partout portant un peu de baume à la souffrance, au corps quelques remèdes, aux âmes l'espérance, un secret aux malades, aux partants un adieu, un sourire à chacun et à tous un mot de Dieu. Ainsi passe le jour sans trop peser sur l'heure. Mais quand je rentre seul dans ma pauvre demeure, que ma porte est fermée et que la longue nuit, excepté dans ma tempe, a fait tomber tout bruit, ô ma sœur, c'est alors que mon âme blessée sans son mal et retourne enseignant sa pensée, comme on retourne en vain le fiévreux dans son lit. C'est alors qu'une image ou l'autre m'assaillit, que vous m'apparaissez, vous, ma sœur et ma mère, avec tout ce qui rend l'absence plus amère, avec vos traits si doux, avec vos douces voix, vos tendresses, vos mots, vos baisers d'autrefois, et que de ce passé la présence est si forte que je vous tends les bras, que mon âme m'emporte vers vous et dans le sein d'un autre fantôme cher, que je crois les revoir, leur parler, les toucher, et qu'en me retrouvant qu'un chevet solitaire, mon cœur, comme en tombant, s'écrase contre terre. Alors, pour m'arracher par force à ce transport, pour desserrer les dents du serpent qui me mord, le front brûlant, collé sur ma table de chêne, j'attache mon esprit comme avec une chaîne à ces livres usés du regard qui les lit, où le jour de ma lampe, en m'écoutant, plairant pâlit, comme un esprit du doute et de la solitude. J'enivre ma raison de science et d'étude, tantôt dans ces débris que l'histoire a laissés, comme des siècles morts, les pas presque effacés, je cherche à retrouver les traces d'une route, ce vain fil qui se brise entre les mains du doute, ce long dessein de Dieu qui mène les humains, fait de leurs monuments la fange des chemins, dissipe leur empire et leur foi comme un rêve, sur leur propre monceau de débris les élèves, et du dogme et du temps qui ne croit plus finir, ne fait qu'un marchepied pour l'obscur avenir. Mais ce fil dans mes mains se brouille à chaque haleine, dans l'énigme de Dieu dont chaque page est pleine. Des choses, des esprits d'éternel mouvement n'est pour nous que poussière et qu'éblouissement. Le mystère du temps dans l'ombre se consume, somme. Le regard infini n'est pas dans l'œil de l'homme. Et devant Dieu, caché dans sa fatalité, notre seule science est notre humilité. Tantôt, las de sonder ces obscures merveilles, Je livre au hasard saint mon âme et mes oreilles. J'écoute avec le cœur ces chœurs mélodieux qui se brisant à terre, en retombant des cieux, en soupirs immortels sur la harpe éclatèrent, et pour diviniser leurs plaintes les chantèrent. Ô de l'humanité, ces hommes sont la voix. Les mots harmonieux s'ordonnent à leur choix, comme aussi le Dieu s'ordonne ses ouvrages, et vibrent en musique ou brillent en images. Leurs vers ont des échos cachés dans notre cœur. Ils versent aux soucis cette molle langueur, cet opium divin que, dans sa soif d'extase, le rêveur orient puise en vain dans son vase. Mais eux, l'ange des vers, leur apporte aux autels pour s'enivrer de Dieu des rêves immortels. Ils versent goutte à goutte en mon âme attendrie, comme un sommeil du ciel, leur tendre rêverie. Mon songe, enfant des leurs, les suit. Et quelquefois, comme une voix qui chante entraîne une autre voix, ma lèvre s'abreuvant au flot de leurs ivresses, se surprend à chanter avec eux ces tristesses. Plus souvent, desséché par mon affliction, je trempe un peu ma lèvre à l'imitation. Livre obscur et sans nom, humble vase d'argile, mais rempli jusqu'au bord des sucs de l'Évangile, où la sagesse humaine est divine à longs flots, dans le cœur altéré coulant peu de mots, où chaque âme, à sa soif, vient, se penche et s'abreuve, des coudes du sueur du Christ à son épreuve, trouve, selon le temps ou la peine ou l'effort, le lait de la mamelle ou le pain fort du fort, et sous la croix où l'homme ingrat le crucifie, dans les larmes du Christ boit sa philosophie. Ainsi, lisant, riant, écrivant tour à tour, tantôt le cœur trop plein et débordant d'amour, tantôt frappant mon sein sans que l'on en jaillisse, ne trouvant qu'une lie au fond de tout calice, puis regardant fumer ma lampe qui pâlit, puis tombant à genoux sur les bords de mon lit, mouillant de pleurs mes draps qu'entre mes dents je froisse, en sanglots étouffés et comprimant mon angoisse. Puis, quand du coup au cœur tout le sang a coulé, relevant vers la croix un regard consolé, ouvrant mes deux volets pour respirer à l'aise les brises de la nuit dont la fraîcheur m'apaise, le front pâle et terni d'une moite sueur, dans mes veilles sans fin je ressemble, ô ma sœur, à ce Faust enivré des filtres de l'école, de la science humaine éblouissant symbole, quand, dans sa sombre tour, parmi ses instruments, on l'entendait causer avec les éléments, et qu'au lever du jour, dans son laboratoire, on ne retrouvait plus qu'un peu de cendre noire. Hélas, si ce n'était la grâce du Seigneur, que retrouverait-on le matin dans mon cœur? Oui, c'est Faust, ma sœur, mais dans ces nuits étranges, au lieu d'esprits impurs consolés par les anges. Oui, c'est Faust, ma sœur, mais Faust avec un Dieu. Que de choses encore! Ah, la cloche sonne. Adieu. Un grand nombre de pages manquaient ici au manuscrit.